le karma, maintenant, de ce qu'on appelle Kuru. Le tibétain, si je m'en souviens bien, c'est le Drakpa. Comme dragon. Drak, je crois que c'est ça. Ça veut dire force, violence, abrupte, je préfère traduire. Je me méfie aussi de ce mot-là, qui souvent justifie justement certaines personnes qui sont en colère. Dit oui, mais c'est le Kuru, je te casse, machin, je t'envoie tes quatre vérités, etc. Non, ils sont en train de justifier que l'autre mérite ta colère. D'accord ? Et là, c'est encore un déni. On se voile la face. Et on va dire non, c'est l'activité Kuru, après on l'associe à Mahakala, etc. Mahakala n'est pas quelqu'un courroucé. D'accord ? On montre le visage, Mahakala, c'est le visage de notre colère. D'accord ? Et cette colère, comme pour Akshobhya, cette colère est notre nudité. Quand on est en colère, moi en tout cas, oui, plutôt aussi, on ne fait plus attention à l'image de soi. D'accord ? Moi, je suis décomplexé avec mes colères, donc même si quelqu'un passe, même un élève, etc., si je suis en colère, je suis en colère, quoi. D'accord ? Etc. Mais il n'y a pas de justification d'agression. Je hausse le ton, etc. Voilà, je peux me fâcher. Comme ça, ronchon, voilà. Par contre, je n'ai pas d'agression particulière. Mais la colère, c'est notre visage le plus intime. Souvent, des personnes, j'ai rencontré des personnes qui s'étaient mis en colère. Oui, maintenant tu vois ce que je suis, enfin, ma face cachée, etc. Tu vois, cet aveu-là. C'est beau, c'est humble. Mais, et souvent, finalement, on se met en colère avec les gens qui nous aiment, grosso modo. Sinon, le reste, c'est convention. Heureusement qu'il y a cette convention, ces politesses sociales, etc. En général, on montre son vrai visage, quelqu'un finalement en qui on a confiance, avec habitude, on se fait un petit câlin, voilà, on s'excuse, voilà, etc. Mais ce n'est pas obligatoirement une violence. Enfin, ce qui est associé à ce qu'on appelle Mahakala, il faut les appeler les grands noirs, c'est notre zone. Notre zone obscure, c'est le visage de notre. Cette zone obscure de nous-mêmes, qui est crue, et non pas cruelle, je fais la différence. C'est pour ça que Drakpa, je ne traduis pas par Kuru ou violence, je dis crudité. Tu vois la différence ? Que cruauté. Cru, brut de décoffrage, on dit en maçonnerie, brut de pomme, je sais pas, tu vois, tiens, tac. Et parce que là, on fait plus attention à son image de soi, c'est grave aussi, il faut garder un peu son image de soi. Ça... Mais voilà, on est complètement lâché, quoi. Donc ça relève à la spontanéité d'Akshobhya. Mais. Dans Amoghasiddhi, c'est ce qu'on appelle la jalousie, et j'en ajoute adversité, qui est une annexe de la répulsion-aversion. Hein, mais où on tire des bénéfices, c'est-à-dire on se donne des semblants de satisfaction par la puissance que donne la médisance, l'emprise sur l'autre, les rumeurs, tu vois, ce qui donne les renaissances dans les demi-dieux. Ça donne une certaine satisfaction. Alors que dans Akshobhya, cette énergie de répulsion-aversion ne donne pas de satisfaction. En plus, il y a la culpabilité, machin. Mais avec la jalousie-adversité, il n'y a pas de culpabilité. Hein, tu jouis de voir l'autre souffrir. D'accord ? Hein, je range là-dedans les pathologies comme les sadiques, les narcissiques pervers, etc. Ceux qui cherchent une manipulation, une emprise, etc. Et le type de répulsion, c'est se voir dans l'inhibition, l'impuissance, l'inhibition. On dit jalousie, mais c'est l'inhibition. La jalousie amoureuse en fait partie, hein, d'accord ? L'inhibition, c'est à se sentir donc, dans une castration, dans une frustration, etc. etc. D'accord ? Mais tu ne t'en tiens pas là. Tu vas te trouver un sentiment de puissance. Alors que tu as un sentiment d'impuissance de toutes sortes, d'accord ? Tu vas te trouver une puissance. Mais ce sera une puissance qui n'en sera pas une, parce que ce sera teinté de la soif, de la saisie, de l'illusion, de l'ignorance, et surtout l'inefficacité. Tu vas te trouver un sentiment de puissance pour te satisfaire, et ce qu'on appelle, je ne sais plus si on ou je, ce que j'appelle l'adversité. C'est-à-dire le combat, tu es combatif, tu dénonces tout, tu es dans la suspicion, donc hop, tu dénonces, etc. Et tu te donnes une puissance parce que tu as d'autres personnes qui vont adhérer à ça. Les rumeurs, tu lances une rumeur, oui, mais lui, tu sais, il est machin, machin, machin. Et d'autres, tu vas rassembler une bande de frustrés. C'est ce que fait les grands totalitaires. Hein. La frustration de l'armistice du traité de Versailles a créé Hitler. D'accord ? Il a joué là-dessus. Les populismes jouent sur les frustrations. D'accord ? Et ça donne une force. Et tu peux avoir cette force qui n'en est pas une au sens efficacité. C'est des compensations. D'accord ? Tu compenses tes frustrations, hein, par un sentiment de puissance qui n'en est pas un, à voir l'autre rouler dans la boue grâce par tes rumeurs. Tu te donnes voilà. C'est des gloires médiocres, déplorables. Je les appelle la gloire déplorable. C'est un des péchés aussi, un péché dans la Bible, hein, la gloire, le péché de gloire. Avoir réussi dans sa vie, on peut se glorifier, hein, mais gloire, c'est pervers, c'est ce péché de gloire, c'est avoir sentiment de victoire sur l'autre, de le revoir lui-même dans une frustration. Tu vois ? Par exemple, tu as l'orgueil, la frime. L'orgueil, c'est autre chose. Hein. C'est un domaine d'évaluation tarifé. Je suis plus petit, plus grand, voilà, égal à toi. Voilà. La modestie fait partie de l'orgueil. Hein. complexe d'infériorité, complexe de supériorité et tentative de sentir l'égal de l'autre. Hein. Voilà. Ça, c'est l'orgueil. Mais disons une petite frime, d'accord ? L'orgueil au sens populaire. Je frime parce que j'ai une belle voiture. Au lieu d'avoir une belle voiture, parce que tu aimes les belles voitures. Hein, tu vas rajouter une image de toi et tu frimes et tu t'exhibes. D'accord ? Ça, c'est l'orgueil ordinaire. Quand quelqu'un est frustré, qui va compenser sa frustration en s'achetant, soi-disant, une belle voiture, là, c'est plus l'exhibition au sens simple, c'est l'inhibition qui va trouver un pouvoir en voyant l'autre, non pas t'envier, hein, en voyant l'autre dans l'impuissance de s'acheter la même voiture. Tu vois la perversion. La jalousie adversité, c'est cela. Hein. Ça va ? Et ça, c'est vraiment, c'est pervers, quoi. Et c'est une victoire déplorable. D'accord ? Donc tu vas t'acheter quelque chose en vue de voir que l'autre va se retrouver à dire « Ah, j'arrive pas à me le payer. » Alors qu'avec l'orgueil, tu peux exhiber ta belle voiture en disant « Ça peut créer l'envie de l'autre. »« Waouh, j'ai envie de ça, ouais. » Un peu de jalousie, mais il n'est pas frustré. Et il va peut-être chercher le moyen de l'avoir, puis il l'aura. D'accord ? Et donc, dans le péché de gloire, il se définit comme ça dans le sens biblique. Hein ? C'est vraiment une perversion. C'est pas de la belle gloire, c'est la gloire des demi-dieux. Des demi-portions, je les appelle, les demi-dieux. Alors, ils s'achètent, ils se confrontent aux plus forts, d'accord, pour les amener à être, enfin, de s'amener soi-même à voir l'autre dans une frustration. Même si ce n'est pas fondé et réel, lui se satisfait de voir l'autre dans une frustration, une impuissance, une castration, etc. D'accord ? Ça va ? Donc là-dessus, cette activité dite de courroux, hein, va prendre des plis de perversion, justement. Hein. Ça va être cruel. Ça va être stratégique, machiavélique. Hein. Des stratèges de politiciens, tu vois, c'est rare, des stratèges de rumeurs, les délations, comme on dit, les corbeaux, tout ça. C'est rare. Et des rumeurs, parce que les gens frustrés sont lâches. Les inhibés sont lâches, parce qu'ils ne veulent pas se prétendre justement inhibés. Ou alors, s'ils y arrivent à le faire, justement, il n'y a plus de perversion possible. Ils s'avouent, je me vois dans une, voilà, etc. Inhibé, etc. Je rage, etc., etc. Mais sinon, si on fait un déni de cette frustration, on ne se l'avoue pas, eh ben, on va jouer sur la lâcheté. On ne va pas s'affirmer en train de se venger, etc. Donc c'est beaucoup plus sournois, hein, que la répulsion-aversion, l'agression, les colériques. Les colériques, c'est fiable. Il n'y a pas plus sincère qu'un colérique, je dis souvent. Et je dis souvent, vous demandez le sens de l'amour à un colérique, il sait mieux que tout autre, on dit. Mieux que personne. C'est peut-être un cliché, mais c'est pour ça qu'il faut avoir un autre regard de nos colères. Bien sûr, attention, ne pas tuer, ne pas blesser, etc. Mais un autre regard. D'accord. Et voir que où se déniche cette convergence de colère, bonté, colère, enfin plutôt donc colère dans le sens agression, hein, d'accord. Agression, amour. C'est vraiment un propos même de Sakyamuni. Hein. Il dit l'éveil nous amène à une plénitude de sentiments, mais dans la reconnaissance de leur coémergence. Colère, amour, orgueil, équanimité. Donc la sagesse de Kourou, enfin le karma, l'activité, pardon. L'activité de Kourou, c'est une activité de franchise. Tu vois, ça change tout. Mais pas dans le but de balancer les quatre vérités à quelqu'un. Là, c'est pas clair. C'est quelqu'un qui se donnera un sentiment de puissance sur l'autre, lui donneur de leçons en disant « Aujourd'hui, je vais te dire tes quatre vérités, etc. » Ça peut être violent, là, c'est violent. Donc, une histoire de franchise qui peut aller jusqu'à être incisive. D'accord ? Mais ça peut être une franchise qui justement, n'est pas d'être violent. Tu peux avoir la franchise qui dit à l'autre « Mais tu sais que tu es amour, et puis l'autre est bouleversé. » Tu vois ? Hein ? Ça amène un... Et quelqu'un dit « Mais on m'a jamais dit ça. » Tu vois, alors le mot Kourou, ça, Dragpa, c'est. Oui, c'est. Voilà, c'est franc et net, brut de décoffrage, etc. Mais c'est pas entre les mains de quelqu'un qui veut être Kourou, c'est pas entre les mains de quelqu'un, ça. Parce que cette quatrième activité, elle procède des trois autres activités, pacification, etc. Ça va être choisi dans un moment donné. D'accord ? Tu peux avoir une relation avec quelqu'un qui te semblait l'ennemi, toi. Tu as pacifié les choses, tu as communiqué, etc. Tu t'aperçois que bah, finalement, c'est pas un ennemi. Enfin, il est tout aussi aimable ou d'autres personnes l'aiment, toi. Tu rentres en économité, puis après en entendement. Comment j'entends ton acte ? Ben, tu sais, ton acte, finalement, ça m'a blessé. Voilà, je l'ai entendu comme ça, etc. Et l'autre, finalement, finit par te dire « Excuse-moi, je ne voulais pas en arriver jusque-là moi-même, etc. etc. » Et le courroux, c'est peut-être la phrase qui tue, peut-être, dans le sens que « Mais tu sais, si tu continues comme ça, tu ne seras jamais toi-même. » C'est pas violent. Et l'autre personne le prend vraiment de façon incisive et tu lui révèles quelque chose. Tu vois ? Une phrase, c'est un exemple, hein, c'est un scénario. Donc il ne faut pas toujours entendre que, parce que par Kourou, de justifier la colère contre quelqu'un ou la méthode anglo-saxonne, j'arrange plus dans les méthodes anglo-saxons, c'est faire souffrir pour évoluer, quoi. Dans certaines approches thérapeutiques, mais je l'arrange plus dans l'aspect coaching anglo-saxon américain, mais, hein, tu casses et puis tu as une expérience. Tu peux casser facilement toute personne, quoi. Ça, c'est. Et t'es pas sûr de la vertu de cela aussi. Alors. Et souvent, dans les stages comme ça de, comment on dit, transformation personnelle, développement personnel, t'as les personnes qui sortent de là, ah, j'ai été cassé, et ils croient avoir été déprogrammé de quelque chose, ou ça a été vertueux, etc. Et donc, ils se disent, si j'ai souffert, le gars, il a su me trouver ma faiblesse, il a été dans la brèche, là, etc., il m'a cassé, mon orgueil, machin. J'y crois pas vraiment à ça, cette vertu-là. Alors que ça peut être nécessaire peut-être, hein, mais avec prudence, quoi. Je sais pas si je t'avais parlé de cette anecdote aussi. Je venais d'arriver à Kegling. Puis j'étais un peu. Voilà, un peu. J'étais venu pour construire le temple, toi. Je m'étais donné un mois, je voulais construire. C'est-à-dire le temple, ça aurait été une mosquée et tout. Je voulais participer à ça, parce que voilà. Et je voyais les gens qui disaient le lama a dit, machin. On me disait, je me disais, il y a des réunions, comment ça, pour la collectivité, comment c'est géré. Ah non, c'est le lama qui décide, bon, pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez. Et je discutais avec quelqu'un, on travaillait ensemble. Il revenait d'un entretien avec lama Sherpa Dorje, que je n'avais pas vu pendant tout le mois, tout le monde m'en parlait, etc. Et un entretien, et j'allais le voir parce que c'était la fin de mon mois, mais j'étais déjà décidé, j'avais écouté les enseignements, j'étais déjà décidé à être moine, faire la retraite, etc. Tout et tout, quoi. Bref. Mais bon, il y a une bonne bande de résidents qui m'ont donné, encouragé vraiment à. C'était des gens authentiques, mais des fois je disais, il y a des gens un peu perchés, quoi, enfin grave, quoi. Mais gentils, hein. Et une personne, entre autres, qui revenait d'un entretien avec lama Sherpa Dorje, et qui dit, j'ai eu un entretien avec lama Sherpa Dorje. Il est clairvoyant, il m'a cassé mon ego, etc. Oh, c'est quoi ça? J'allais dire bonjour, au revoir, parce que j'avais pas été voir, mais il venait d'arriver de voyage, tout ça. Je dis, oh là 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 là, c'est quoi ça? Enfin, ça me. Enfin, ça me. Je venais pas d'un monde spirituel, moi, je disais, d'un milieu comme ça, très modeste, je sais pas quoi. Et il me dit ça, puis on en parlait, on était au troisième étage du temple, où je faisais la maçonnerie du troisième étage du temple. Et vient lama Sherpa Dorje qui vient avec le saucisson et le vin. Déjà, ça des contacts. Et c'est vrai que tous les deux, cet ami-là, on rigolait bien, on est deux bouts d'en train, enfin voilà. Il dit, ah, c'est bien, j'entends que des rires, c'est Dharmakaya, c'est Yogi. Tu vois, il me fait comme ça, il me sort de tout ça. Et voilà, etc. Et il nous sort une tranche de pain, il faisait souvent ça au chantier. On se retrouvait des fois à quatre en hiver, hein, dans le temple, là, à travailler, hein, avec Lama Dechen, Dewa, Arnaud. Voilà, on se retrouvait à 4, 5, 6. Puis moi, j'ai été après aux éditions, où j'ai laissé tomber, etc. En été, il y avait beaucoup plus de bénévoles. Mais. Et donc, ce lama que je venais voir la première fois, voilà, un épanouissement, quoi. Il m'a pacifié mes inquiétudes, en quelque sorte. Je ne sais pas s'il a fait quoi que ce soit. Hein. Et puis, j'avais oublié des outils, donc je devais descendre du troisième étage. Et puis, on marche ensemble dans les escaliers. Et puis, il me dit comme ça. Je comprends pas, vous les Occidentaux, vous avez besoin d'être cassés. Et ça m'a soulagé. J'ai dit, ah non, pas tout le monde, ça va. Et il m'a toujours tout trouvé quand je voulais pas être en accord, etc. quoi. Ah, mais voilà, c'est très très bien passé. Enfin, je le respecte infiniment. Enfin, j'ai beaucoup de dévotion, de gratitude, quoi. Mais tu vois la démarche, c'est que c'est ceux qui veulent casser qui finissent par trouver quelque chose qui les casse aussi. Hein? Tu vois, ou quelqu'un qui va être manipulé se trouve quelque chose à être manipulé. Hein. Attention, il n'y a pas toujours un manipulateur et un manipulé, un agresseur et un agressé. Hein. C'est ça aussi, il faut bien voir la subtilité hein, du karma, hein, comment j'entends quelque chose. D'accord ? Hein, le lama dit quelque chose, j'entends un ordre. Et la dévotion, c'est une obéissance. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'abord, le mot dévotion n'est pas correct. Je prends note d'une phrase. Moi, j'ai toujours pris note des phrases. Et puis, quand j'étais pas d'accord, je suis pas d'accord. Puis, on négociait, quoi, avec la machine Ambergé. Puis, ça s'est très bien passé. Puis, genre, oh, t'as désobéi. Voilà. Non, j'ai dit, j'étais pas d'accord avec ce qu'il dit. Tu vois, et voilà. Ces quatre activités, d'accord, donc adviennent quand on maîtrise les quatre sagesses des quatre Dhyani Bouddha. On a la sagesse du Dharmata avec la famille Bouddha Vairocana. À partir de là, c'est co-émergent, hein, sine qua non. On a quatre intelligences. L'intelligence semblable au miroir, l'intelligence de l'équanimité, l'intelligence du discernement, l'intelligence de ce qu'on appelle l'activité tout accomplissante. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'inhibition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas des obstacles. On dit non-obstacle, non-frustration. D'accord ? Non-impuissance. Je ne me réduis pas à l'impuissance devant une difficulté. Je fais un effort. Tu vois ? Les gens ils disent, cette sagesse tout accomplissante, c'est Superman, il n'y a plus de difficulté pour les êtres éveillés. Ah, c'est pas comme ça. Hein. Ou regarde, les karmapas, ils n'ont pas de difficulté, ils construisent des temples. Ouais, parce qu'il y a le charisme, il y a l'image, etc. etc. Donc, il fait un appel de don, il les a, hein, son argent. Alors là, effectivement, c'est aucun obstacle. Quoi. Les banques prêtent éventuellement, hein, voilà, parce qu'il y a un patrimoine immobilier. Hein. C'est pas de cette sagesse-là. Alors, le karmapa peut avoir cette sagesse, c'est autre chose. Hein, d'accord, mais c'est pas le fait de pouvoir construire un temple, voilà, avoir aucune entrave dans son entreprise, voilà, c'est pas ça. Et sagesse tout accomplissante, donne lieu en tibétain, c'est-à-dire là où il y a du sens. Ça n'a rien à voir, et c'est pour ça que je l'appelle intelligence d'opportunité. Hein, de la propos opportunité, c'est-à-dire mener à bon port. Hein, ça va ? Et là, il faut avoir cette sagesse de savoir. S'il faut dire quelque chose de franc, tu vas le dire au bon moment. Enfin, pour toi, estimer. Tu peux toujours, t'as toujours le droit à l'erreur. Hein. Il faut être gentil avec les êtres éveillés, ils ont le droit à l'erreur. D'accord ? Ah, désolé, c'est pas le bon moment de l'avoir dit. Voilà, on s'excuse. Et tu vois la différence. De mieux qu'il y a du sens par rapport à l'arbitrage vertueux non vertueux, à l'entendement pour mettre un effort hein, de concentration pour amener à l'acte qui amène la vertu, à la lucidité et ainsi de suite. Et à un moment, il faut peut-être avoir quelque chose de plus franc pour être amener l'autre à une lucidité. Hein, s'il est en train de se mentir à lui-même, éventuellement, c'est toujours délicat de se donner le droit de le faire. Hein. Et c'est ça qui nécessite l'opportunité, quoi. La manière d'avancer à quelqu'un. Attends, est-ce que tu me permets d'être franc ? Alors que les gens qui disent courroux, c'est colère, on ne demande pas la permission. Je suis en droit de, je suis un grand lama, je courroux, etc. Il y a des gens qui se sont plantés comme ça. Ces quatre activités-là, on les exerce hein, quand on fait de la méditation. Ne serait-ce que samatha. Il y a une pensée qui vient, on ne lui donne aucune intentionnalité, agréable, désagréable. On ne se donne aucune contrariété. Je suis contrarié d'avoir une pensée ou et j'espère ne pas avoir de pensée. Ben, on arrive à samatha, c'est un observateur sans affect, équanime. Voilà. Et ben, on a travaillé notre activité de pacification. Et ce n'est pas être en paix de pensée. C'est qui est pensée ou absence de pensée. on pacifie parce qu'on n'a pas de projet utopique, irréalisable, tout simplement. D'accord? On n'est pas dans l'espoir-crainte. Voilà. L'espoir-crainte crée des projets irréalisables. Donc on va se confronter aux obstacles et aux frustrations. Et à partir de là, bon, eh ben on fait l'équanimité, qu'il y ait pensé, pas pensé, qu'elle soit agréable, désagréable, voilà, équanimité. Et cette équanimité permet d'échapper à la discrimination et d'avoir accès à une aptitude de l'intelligence qu'on appelle discernement. Relativiser, rationaliser, raisonner, nuancer, analyser, jusqu'à obtenir ne serait-ce que la prajna, c'est-à-dire une conscience du discernement. Et après, eh ben, tout ça, ça se fait. Quand on médite, hein, on met en œuvre ces intelligences, ces activités. C'est des activités inhérentes, hein, à l'usine, à l'usine qu'on appelle l'esprit. Hein. D'accord ? Notre mécanisme, l'esprit, c'est un mécanisme, un fonctionnement omnifonctionnel. Hein. C'est pas quelque chose. Hein. Et il a besoin de ces intelligences comme on a besoin de logiciels, des fois, ou de cartes vidéo, machin, dans un ordinateur. Voilà. Ça va ? J'ai été long, hein, tu m'as demandé brièvement.
Ah non, c'est très bien.
Je peux pas. Hein. Dans chez Rab, il y a Rab. Tu auras toujours du Rab. Allez.
Oui.